Pop-Opienne, Pop-Opien et tous les autres aussi, bonjour. Ce n'est pas la première fois qu'il va être question d'amour dans Pop-Pop-Pop, comme ce n'est pas la première fois que nous recevons Mona Chollet, pour qui, avouons-le, nous avons un petit béguin. Je dirais même que l'amour à Pop-Pop-Pop est un thème au moins aussi récurrent que ces produits dont on fait un usage domestique quasi quotidien, au même titre que ceux qui désinfectent et dégraissent. Enfin, quand je dis on, je pense en particulier à nos épouses et compagnes dans le cadre des couples classiques hétérosexuels, bien sûr. Et vous me direz, mais quel rapport entre frotter, briquer, récurer, astiquer, l'amour dont je vous promettais à l'instant qu'il serait notre thème du jour. Et vous aurez raison, l'amour n'est pas une casserole, encore qu'il peut parfois en devenir une quand l'un s'attache trop, quand l'autre adhère moins. L'amour, c'est ce qui fait battre le cœur du monde. Je parle bien sûr de l'amour en général, celui que l'on porte aussi bien à ses amoureux qu'à ses enfants ou à nos compagnons à quatre pattes, ou encore à celui que chantait Johnny à toutes les sauces en rajoutant une syllabe, à amour. Et quand l'amour va mal, le monde lui-même ne se sent pas au mieux. On pourrait aller jusqu'à dire qu'il se barre en couille, puisqu'aussi bien nous parlons aujourd'hui de l'amour hétérosexuel que, selon Mona Chollet, notre invité aujourd'hui, le patriarcat, il fait rien qu'à le saboter. Oula, c'est un sujet bien sérieux, observerez-vous à juste titre. Certes, comme la vie, vous répondrai-je, comme la pop culture donc, puisque, je vous le rappelle, tout est dans tout et réciproquement, comme ajoutait Pierre Dac, ce génie. Cette émission a un titre gainsbourgien, la vie ne vaut d'être vécue sans amour, et pop, 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 c'est parti.
France Inter, pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Mona Chollet.
Bonjour.
Bonjour et re-bienvenue chez nous.
Merci.
L'amour, donc, au menu de Pop-Pop-Pop, un thème récurrent, et pour rester un instant dans la métaphore cuisinière, on dira que pour commencer, que l'amour, c'est comme les casseroles, ça s'entretient.
Oui, je pense que c'est un bon... Ça s'entretient et puis ça se pense aussi. Ouais. C'est vrai que... C'est un sujet sur lequel on a tellement tendance à croire que tout va de soi, que tout dépend d'inclination personnelle, de sentiments complètement spontanés, sans aucun lien avec des influences sociales, etc.
Alors, l'amour, oui, mais débarrassé de l'illusion à l'ombre de laquelle il prospère, puisque la vie sentimentale est aussi polluée, encombrée par les rapports de domination et une forme de violence, comme vous l'expliquez très bien dans ce livre. C'est l'observation des autres qui vous a amené à un tel constat, ou bien, comme vous le racontez, vous en avez pris conscience à travers votre propre histoire aussi ?
Les deux, je crois qu'il y a eu un... À la fois, c'était des observations, c'était des heures de conversation avec mes amis, parce que les femmes passent beaucoup de temps à parler d'amour entre elles. Je pense que les hommes un peu moins, ça fait aussi partie du problème. Mais en attendant, voilà, c'est beaucoup de très longues conversations, d'observation de situation, et puis plus largement, quoi, d'observation de la société, et puis mon vécu à moi aussi, évidemment. Ouais.
Et le grand méchant loup, c'est donc ce patriarcat qu'on met aujourd'hui à toutes les sauces, et donc dans toutes les casseroles. Alors pour qu'on soit bien d'accord sur le retour, la nature, pardon, de notre terrain de jeu, et le fond de votre propos, le patriarcat, selon Mona Chollet, c'est quoi ?
Selon beaucoup d'autres femmes et d'autres féministes aussi, je crois, c'est le fait de simplement que les hommes dominent et ont un avantage dans tous les domaines de la société, quoi, c'est-à-dire autant dans la vie publique que dans la vie privée. Ça peut se traduire par les écarts de salaire, par les féminicides, par plein de choses peut-être plus subtiles aussi, l'attribution, enfin le droit à l'expertise, le droit à imposer son point de vue, imposer son regard sur les choses, son point de vue. Voilà, c'est
l'idéologie de la domination.
Oui,
okay. Gros, c'est ça. C'est tout le sujet de votre nouveau livre « Réinventer l'amour » qui a comme sous-titre « Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles » qui est édité aux éditions de La Découverte dans la collection Zone. Il va donc être question d'amour, de patriarcat et de pop culture dans cette émission, les deux étant étroitement liés, comme vous le démontrez très brillamment. L'amour, je le disais, Johnny le chantait à toutes les sauces, enfin l'amour, tout comme les Rita avec les histoires d'A, évidemment.
Nicolas
les histoires d'amour finissent mal en général. Confirmez, Mona Chollet ?
Non, pas forcément.
Non, pas forcément.
Non, je crois que non, je crois même qu'il y a eu un peu une complaisance pour cette idée, fait, une vision toujours un peu tragique, qui devient un peu une facilité finalement aussi.
Non, ça se termine pas toujours si mal que ça. Mona Chollet, vous êtes journaliste et essayiste. Nous avions longuement parlé ici de votre dernier ouvrage, enfin l'ouvrage précédent, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, où vous exploriez ce qu'il reste aujourd'hui dans nos préjugés de ce qualificatif de sorcière. En gros, les femmes indépendantes, sans enfants et les femmes âgées. Et comme toujours chez vous, le sous-titre éclairait le propos, la puissance invaincue des femmes. Cette puissance, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle se déploie? Et si oui, à quoi le voyez-vous, vous qui observez si finement notre monde?
Oui, je crois, avec en tout cas dans la mesure du possible, parce qu'il reste quand même énormément d'obstacles, énormément de résistances, parfois même violentes, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a du harcèlement, il y a des attaques très violentes contre les féministes les plus visibles. Mais c'est vrai que je pense qu'on est dans une période où il y a vraiment une espèce de... Il y a une émulation collective très forte, il y a une volonté de penser vraiment chaque aspect de la vie des femmes. Et c'est intéressant, je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux qui l'ont permis, parce que longtemps le féminisme français était très, très universitaire, très sage. Ouais. Et en fait, les choses se sont vraiment, enfin non, très sage. Il y a avec beaucoup de
exceptions.
Oui, aussi. Et je pense que le fait que les femmes se soient mises à parler très largement de absolument tout ce qu'elles vivaient, que ce soit le quotidien, les violences, le harcèlement, le racisme aussi, le validisme, enfin plein de la transphobie, enfin plein de choses. Qui n'avait pas forcément le droit de citer avant, ça donne cette immense conversation. Et...
Cet essai féministe, Sorcière, a été vendu à plus de 250 000 exemplaires, ce qui en fait un phénomène d'édition. Un phénomène est souvent inattendu, on est bien d'accord, mais oui. Celui-ci en particulier ?
Oui, vraiment. Ouais. Non, ça me fascine d'un côté, parce que j'avais l'impression d'avoir fait un livre... Enfin, comme toujours, d'ailleurs, je crois très personnel et à la limite de l'égoïsme. Enfin, c'est-à-dire vraiment, comme toujours, j'écris toujours pour résoudre des questions qui se posent à moi de manière très immédiate dans ma vie, pour essayer de vivre mieux à la fin, c'est-à-dire de me transformer moi-même par l'écriture, d'éclaircir les choses qui me tracassent, qui me gênent. Et donc, ouais, c'est ce que j'avais fait pour Sorcière. C'était avant MeToo. C'était une démarche très, presque intime, en fait. Ouais, ouais. Et ça me fascine de voir, j'adore, en fait, c'est fabuleux de voir ça. Comment, c'est-à-dire quand on croit être le plus personnel,
intime,
en fait,
touche à l'universel.
Ouais, on touche beaucoup de gens. Ouais.
Bien sûr. Ouais. Au-delà du phénomène d'édition, Mona Chollet, Sorcière est devenue une véritable Bible pour la nouvelle génération. Et vous, un véritable symbole de cette parole féministe. Comment est-ce que vous le vivez, ça ? C'est facile ou pas facile ?
Oui et non, c'est un peu étrange, parce que il y a toujours... on n'est jamais... Enfin, je veux dire, il y a quand même toujours de quoi suspecter qu'il y a une forme d'idéalisation, parce que moi, je me sens pas du tout un symbole ou de quoi que ce soit, quoi. Ça peut être un rôle un peu encombrant. Et puis, je crois que je cherche pas vraiment de... Ouais, ça m'embarrasse presque de prendre de la place, parce que j'ai... Alors après, il y a peut-être un truc terriblement féminin dans ce que je dis là. En m'écoutant parler, je me dis, mon Dieu. Mais ouais, j'aime bien. C'est vrai que je suis plus... ce que j'aime, c'est ce rapport très intime de l'écriture, en fait. C'est-à-dire d'écrire tranquillement chez moi et que d'autres personnes me lisent tranquillement chez elles. C'est un peu mon mode de communication idéal. Donc là, tout d'un coup, il y a une exposition qui est un peu étrange à vivre.
Alors attendez, je parle de symbole, on pourrait même parler d'icône, parce que je suis tombé sur vous dans une des... petite rue de Trouville-sur-Mer, à côté de l'endroit où j'ai passé toutes mes vacances. Enfin, il y avait une œuvre qui vous représente par le graffeur Foxine Trouville, et qui a voulu vous représenter au même titre que Jane Goodall, Nina Simone, Rosa Bonheur. Il dit que ce sont des héroïnes, des femmes qui ont marqué leur époque. Je mets leur nom dessous pour que les passants puissent se renseigner sur elles, sur ce qu'elles ont fait. Vous avez
conscience, ça m'a tellement
quand même
touchée.
Que vous marquez l'époque. Laissons le symbole du faune de côté.
Non, ça paraît toujours un peu irréel en fait. Ça me non. Après, ça me fait plaisir parce que voilà,
révélatrice en tous les cas.
Oui. Et puis non, c'est évidemment c'est très ouais. Ça, je rencontre, je croise parfois dans la rue, il y a des femmes qui m'arrêtent et on discute et c'est vrai que c'est génial quoi. Enfin oui, l'autre jour une femme m'a vue comme ça et puis elle me dit oh je vous adore. Et je disais bon ben ça va, il y a pire manière de se faire aborder dans la rue quoi, c'est pas jeu.
Votre parole est rare, hein. Je vous remercie d'ailleurs d'être ici en direct dans Pop, parce que je sais que c'est pas un exercice qui a tout à fait vos faveurs. Pour cette raison par exemple que vous refusez les conférences.
Oui, j'en fais pas beaucoup. Non, je suis pas vraiment une oratrice, je suis pas ouais, ça me paraît toujours un peu.
Vous dites, j'ai l'impression d'être une taupe qu'on a arrachée à sa taupinière pour lui braquer un projecteur dans le museau.
Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. Oui. Non, je sais pas, je trouve, ça me laisse perplexe qu'on considère toujours que les auteurs, que ça va forcément de soi, que quelqu'un qui écrit soit aussi à l'aise pour parler en public et être parfois sur un podium ou une scène devant 200 personnes ou plus. Je trouve que c'est pas du tout les mêmes, ça demande pas du tout les mêmes dispositions, les mêmes talents, voilà.
Bon, quitte à vous faire rougir, Mona, il y a un véritable effet, Mona Chollet, dans la culture et dans la pop culture, et qui va ne faire que s'amplifier avec ce nouveau livre, Réinventer l'amour. C'est juste pour vous mettre à l'aise hein, que je vous dis ça. Nous allons parler de ce livre, justement, avec Charline Roux, qui dans un instant, juste après un nouveau morceau, envoyé sur la planète pop par l'artiste britannique Joy Crooks, When You Were Mine.
In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line, never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way, but someone better want me like that someday.
France Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Et Charline Roux, car oui, c'est sur ce morceau au cuivre rutilant que Charline Roux vient de faire une entrée très chaloupée. Bonjour Charline.
Mais c'est vrai que je suis moi-même très rutilante. Bonjour
Charline. Vous avez lu, relu, re-relu, réinventé l'amour et...
Et rarement la lecture d'un ouvrage m'aura fait émettre autant de commentaires sonores de type « Ah ah ! Ah mais oui ! Ah mais !» Évidemment, c'est bien sûr. Et rarement aussi, le fait de poster la couverture d'un livre assorti de multiples pouces en l'air sur Twitter m'aura valu autant de vindictes moyennement populaires, je dois dire, mais définitivement vénères. Et ce, je pense, à cause du sous-titre du livre « Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles ». Il semblerait que ces deux mots dans la même phrase fassent voir flou hein, certaines catégories. Donc si vous êtes d'accord Mona Chollet, commençons par un peu de pédagogie, un mot sur ce sous-titre qui me semblait pourtant assez limpide et pas franchement guerrier.
Oui, c'était très, on a failli devenir fou à force de chercher le bon sous-titre, mais ouais, non, moi ça mais finalement ça me semble assez évident en fait, c'est-à-dire que bien sûr, on peut pas penser que les relations amoureuses, sexuelles entre hommes et femmes sont complètement dépourvues de domination. Alors je pense pas non plus que hétérosexualité et patriarcat soient complètement synonymes, parce qu'on m'a aussi fait ce reproche-là en me disant mais c'est la même chose. Et j'essaye de tenir une voix un peu médiane, quoi, c'est-à-dire où je pense que c'est très mal, ça se passe. Voilà, c'est vraiment un terrain miné, quoi. Je pense que la domination est présente de toutes les manières, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que l'homme dans le couple assume de manière très violente cette domination, ou qu'au contraire il essaye de s'en écarter. Je crois que elle est toujours là, en fait. Parce qu'elle dépend de facteurs structurels dans la société, simplement. Et j'avais envie d'analyser ces facteurs, d'analyser les comportements types qu'ils induisent dans le couple, la vision que chacune ou chacun intègre de lui-même ou d'elle-même, de sa valeur, de sa place dans le couple, de ce à quoi il ou elle a droit, quels sont ses devoirs, enfin voilà.
Et alors pour bon nombre d'entre nous, l'image que l'on se fait de l'amour nous vient des livres, des films, des séries, des chansons, et sans qu'on y prête attention, on se retrouve avec des modèles en tête déjà un peu twistés. Cas pratique numéro 1, a priori anodin, l'Empire contre-attaque, si, Leia répare un vaisseau, Han Solo intervient.
Cessez de faire ça.
De faire quoi?
De faire ça. Mes mains sont sales.
Les miennes sont sales aussi, mais de quoi avez-vous peur?
J'ai peur.
Vous tremblez?
Mais non, je tremble pas.
Je vous plais parce que je suis un vaurien. Et qu'il n'y a pas de vaurien dans votre vie.
J'aime les hommes gentils, c'est vrai.
Je suis un gentil vaurien.
Je trouve.
Et le gentil vaurien de l'embrasser. Alors oui, je sais, contexte, tout ça. Il n'empêche que ce qui nous paraissait romantique, voire érotique en 1980, ne l'est pas tant. Et qu'on est un certain nombre à avoir grandi avec ces modèles-là. Ce modèle selon lequel le danger serait sexy.
Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça fait beaucoup de dégâts parce que oui, on intègre l'idée qu'un homme qui n'est pas dangereux, qui n'est pas dans le forçage, risque d'être, c'est vite assimilé à quelque chose d'ennuyeux, d'un peu trop pépère. Et je pense que ça produit des situations très ravageuses parce que ça. Ça réveille aussi, enfin, ça pousse des femmes à se mettre en danger, à tomber dans des relations toxiques, voilà, très simplement, quoi.
Mona Chollet, pour autant, l'amour dont vous parlez, vous l'aimez et vous soulignez à quel point il y a un lien entre la pulsion amoureuse et la pulsion narrative. On dit qu'on tombe amoureux, ça fait donc forcément mal. Est-ce que ça vaut aussi pour l'écriture, la vôtre en particulier?
Oui, je crois. Pour moi, il y a plein de points communs, en fait. C'est vrai que c'est le fait d'entrer dans un univers, à la fois quand on tombe amoureux ou quand on est dans une bulle d'écriture, ou quand on est dans un récit quel qu'il soit, en fait, c'est-à-dire qu'on se plonge dans un roman, une série, je pense qu'il y a on se sent protégé, on se sent un peu retranché du monde, on a l'impression d'être privilégié par rapport aux autres autour de nous qui continuent à avoir des vies si banales et attendues et je pense que on est aussi, il y a quelque chose d'un peu magique dans le fait de reconnaître C'est vrai qu'on parle d'histoire d'amour et y a un plaisir à se raconter les débuts d'une relation. Ça a commencé comme ça. Enfin, les hasards, les coïncidences. Enfin, c'est comme si on avait un scénariste dans notre propre vie qui.
Coup de foudre.
Voilà, ouais.
Mal, ça électrise.
Ouais, c'est comme si on traversait l'écran ou la page et qu'on se retrouvait soi-même l'héroïne de l'histoire. Ouais.
Alors, tout est affaire de représentation. Vous ouvrez le livre avec un chapitre intitulé « Se faire petite pour être aimée ?» Point d'interrogation, qui a son importance. Petite au sens littéral du terme, soit moins grande que son compagnon, et petite aussi comme discrète. Et d'ailleurs, la question de la voix a son importance dans ce chapitre. Et vous prenez deux exemples opposés. La voix de bébé, que prennent certaines jeunes femmes parce que ça a l'air d'être séduisant, contre le cas Anna Mouglalis. Qui s'est vue sommée de peut-être faire quelque chose parce que voix trop grave égale menace.
Exactement, elle raconte ça, qu'on lui avait conseillé de se faire opérer à la sortie du conservatoire, je crois. Parce que, voilà, elle pouvait pas, c'était pas féminin, quoi. C'est-à-dire, c'était vu, sa voix risquait d'être perçue comme menaçante. Et elle dit aussi qu'on lui proposait des rôles de femme plus âgée, en fait, que son âge réel. Et ouais, je pense qu'il y a malheureusement, il y a beaucoup de traits féminins qui sont codés comme féminins et donc séduisants et qui en réalité sont des traits de discipline et de mise en retrait et de soumission en quelque sorte.
Ce conditionnement dont les femmes sont victimes, celui dont vous parlez, c'est celui qui consiste à continuer à adhérer à la fiction du prince charmant, du sauveur. Et ça, votre livre aide à l'exorciser. Exorciser, sorcière, on tourne toujours autour du même problème.
Oui, en quelque sorte, je pense qu'il y a un vrai conditionnement à l'attente de l'amour chez les femmes, particulièrement chez les femmes hétéros. Je pense, c'est-à-dire, c'est l'idée, effectivement, oui, que notre valeur dépend, notre bonheur dépend très largement de l'homme qu'on va rencontrer, du couple qu'on va former, de la famille qu'on va fonder, etc. C'est vraiment une part gigantesque de notre identité. On nous apprend, en tout cas, que ça l'est, que ça va l'être. Et je pense que c'est quelque chose qui fragilise beaucoup les femmes, qui les rend très vulnérables, parce que elles sont prêtes à reconnaître au premier signe un peu séduisant, elles sont prêtes à penser que c'est lui. Enfin, il y a un schéma comme ça qu'on est toujours prête à plaquer sur une rencontre au risque de commettre une erreur tragique et de faire confiance à des manipulateurs.
Parce que, ne dites pas ça en regardant, ça m'est embarrassant. Nous parlons de réinventer l'amour de Mona Chollet dans Pop Pop Pop. Aujourd'hui, petit break dans cette conversation que nous allons reprendre dans un instant, car je vois qu'il est 16h30, c'est l'heure des Pop News.
Et c'est avec la régularité d'un métronome que les électriques bristoliens d'Idols annoncent leur nouvel album annuel. 14 nouveaux titres, parmi lesquels The Beachland Ballroom. Et le nouvel album d'Idols, Crawler, sortira le 12 novembre et le groupe sera en tournée française début mars.
En voilà une association de malfaiteurs qui fait plaisir à nos esgourdes engourdis. D'un côté, John Mellencamp, fleuron du blues rock de l'Indiana. De l'autre, le patron, le boss, quoi. Puisque pour son nouveau titre, Wasted Days, John Cougar Mellencamp a tout simplement fait appel à Bruce Springs...
À lui,
c'est ça. Ouais. Wasted Days, le duo John Mellencamp, Bruce Springsteen, c'est dur à dire. Hein.
On ne sait pas qui c'est surtout. Hein.
Springsteen a retrouvé sur l'album du premier qui devrait arriver courant 2022.
Le Disney Collection Hiver 2021 se dévoile dans une bande-annonce chantante. Oui, c'est Lin-Manuel Miranda à la manœuvre, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Mais ça s'appelle Encanto, la fantastique famille Madrigal, c'est le titre. Ça se situe dans un mystérieux endroit, niché au cœur des montagnes de Colombie. La petite famille habite une maison, littéralement enchantée, dans une cité pleine de vie. Encanto, donc, et l'Encanto a doté chacun des enfants de la famille d'une faculté magique allant d'une force surhumaine au pouvoir de guérison. Toute la famille, sauf Mirabel. Mais un jour...
La magie est en danger. Nous devons partir.
Nous devons protéger notre maison. Nous devons protéger notre famille.
C'est ma seule chance. Je sauverai la magie.
Attendez. Comment on sauve la magie?
Je perds mon pouvoir.
Mirabel, l'avenir de la famille dépend entièrement de toi.
J'y arriverai jamais.
Charge donc à la seule enfant ordinaire de sauver la magie, Encanto, la fantastique famille Madrigal, rien à voir avec Anna, ce sera le 24 novembre au cinéma.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Et Charline Roux. Mona Chollet, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos amours, plutôt à votre livre, Réinventer l'amour ou comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. C'est absolument indispensable. Ce texte, c'est déjà disponible et c'était édité chez Zone.
Question de perception toujours, je vous cite Mona Chollet, féminin signifie bien souvent contraint, réduit, limité dans l'expression de ses capacités, d'où l'injonction à par exemple faire du sport pour être svelte, mais pas trop. La féminité telle qu'elle est trop souvent envisagée, c'est surtout pas être athlétique ou musclée, et les magazines de brocardé, les Madonna et autres Gwen Stefani, parce que trop sculptée. Et plus surprenant sur le papier, le monde du sport n'est pas exempt de reproches envers ces femmes. Serena Williams, vous l'expliquez, en a fait les frais.
Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est-à-dire que, bon, dans son cas, en plus, c'est du sexisme mêlé de racisme, mais oui, en tant que. Il y a énormément de réactions au fait qu'elle a une musculature trop développée, que c'est pas féminin, c'est pas gracieux, elle n'est pas une jolie petite chose fragile comme sont censées l'être les femmes. Et oui, je pense qu'il y a, vraiment. En fait, c'est effectivement toute l'idée de donner sa pleine puissance, en fait, l'idée de ne pas se brider, c'est-à-dire, et c'est quelque chose, cette exigence de retenue, elle est effectivement présente dans tous les domaines. Faut pas trop manger, faut pas parler trop fort, faut pas, voilà.
Alors c'est très compliqué de se situer entre le trop et le pas assez, et de fait encore plus compliqué de se définir, de s'affirmer dans un couple, et se pose aussi la question de la réussite sociale. Vous faites d'ailleurs référence à une étude canadienne pop-métriste intitulée « Le divorce, la malédiction de l'Oscar ». Les couples de femmes oscarisées ont une espérance de durée beaucoup moins importante que les autres, et comme souvent, la voix de la sagesse, c'est celle de l'icône féministe Gloria Steinem, et sont érotisées l'égalité. Ça passe par quoi ?
Je crois que ça passe par la remise en question de tout un imaginaire, en fait, qui est présent dans toute la. Enfin, j'aime bien d'ailleurs être attentive au modèle de couple qu'on nous présente dans la fiction, c'est-à-dire de voir comment ceux dans lesquels le romantisme effectivement repose sur l'infériorité de la femme et ceux qui essayent d'inventer un modèle un peu plus excitant, quoi. Enfin, je parle notamment de la série
Mrs. Maisel.
The Marvelous Mrs. Ouais. Maisel. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une. C'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, c'est un couple qui éclate et qui, à partir du moment où chacun sort du rôle conventionnel qui était le sien, il se révèle et leur relation devient beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus excitante et érotique qu'elle ne l'était quand ils étaient dans des rôles très convenus d'époux.
Où est-ce qu'on la voit, cette série, Charline?
Vous me posez une colle.
Sur Amazon.
Ah, oui,
c'est ça. Pourquoi vous contenez-vous votre étude, Mona Chollet, au cadre des couples hétérosexuels? Parce que vous l'êtes, me direz-vous, mais n'est-ce pas du même coup une manière d'idéaliser les relations homosexuelles où les rapports de domination jouent aussi, non?
Oui, bien sûr qu'il peut y avoir aussi des rapports de domination dans les couples gays, chez les lesbiennes, mais c'est pas une domination structurelle, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une domination structurelle qui recoupe un fait social, un ordre social, et c'était déjà un sujet assez énorme en soi, quoi. Donc ouais. Il fallait forcément limiter un peu. Je pense que c'est vraiment un cas très spécifique et c'est intéressant d'ailleurs de voir les contradictions que ça implique quand on est hétéro et féministe, quoi. C'est ça qui m'intéressait, en fait, c'était de travailler cette contradiction-là, d'essayer d'y voir clair moi-même, de mettre un peu sur la table mes propres contradictions.
Dans le chapitre qui suit, des hommes, des vrais, vous interrogez aussi les modèles masculins en citant aussi bien les bandes dessinées de Liv Strömquist que le formidable podcast de Judith Duportail qui est Miss Paddle ou encore des films comme Mon Roi de Maïwenn. Et ce pour arriver au sous-titre de ce chapitre, Apprendre des violences conjugales. Impossible de dissocier ces violences d'un livre qui réfléchit sur l'amour.
Oui, en fait, j'avais pas prévu au départ de consacrer un chapitre aux violences, et ça s'est imposé en cours de route, parce qu'il m'a semblé que c'était plus, que c'était pas une dérogation à la norme, les violences, les situations de violence psychique ou physique ou les deux, mais que c'était plutôt une espèce d'excès de conformité à la norme, en fait. C'est-à-dire, je pense que c'est de la part des hommes violents. C'est des hommes qui ont intégré de manière très forte le sentiment qu'ils avaient tous les droits, que tout leur était dû. Enfin, ouais, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de l'étudier sous cet angle-là, il me semble.
Et vous y avez encore une fois une piste de réflexion passionnante. Je cite: notre révérence pour les émotions des hommes, dont l'illustration la plus parlante est tragique, et le traitement médiatique réservé à la mort de Marie Trintignant, puisque c'est pas la victime qui a occupé l'espace médiatique, mais son bourreau et ses atermoiements. Ce serait peut-être bien de rappeler que démonstration d'émotion ne signifie pas absolution, en l'occurrence.
Non, pas du tout. Non. Mais je crois que ça montre, c'est un cas d'école vraiment de la manière dont de la complaisance qu'on a socialement, quoi, en tant que société pour les émotions des hommes, y compris quand il s'agit de meurtriers, c'est-à-dire comment spontanément il y a toujours une identification à l'homme, à ce qu'il a vécu, à ses intérêts, à ses sentiments. C'est très troublant, en fait, quand on commence à examiner.
Mona Chollet, votre vision de l'amour est à la fois émancipatrice, avec un côté fleur bleue assumée. On parlait de casserole en début d'émission. Vous écrivez, je vous cite, « L'amour me donne le sentiment d'augmenter d'un grand coup la flamme sous le chaudron de la vie au point de la dilater, de la densifier. » Fin de citation. Alors, on est loin du champ lexical radical en cours en ce moment. C'est un reproche qu'on risque de vous faire?
Je crois que j'ai les deux. C'est ça qui m'a intriguée et qui m'a donné envie d'écrire, c'est que je revendique les deux, en fait. Et je me suis dit, mais c'est vrai que par moments, je me dis, mais comment c'est possible? J'ai voulu essayer de comprendre comment c'était possible, justement, et essayer de faire dialoguer ces deux parties de moi, en fait, qui sont le produit. Alors, pour une part, c'est parce que je pense que j'ai... Oui, c'est vraiment un conditionnement, une éducation sociale, une socialisation de femmes très, très sensibles à l'amour... Et très classiquement, quoi. Et par ailleurs, une colère et une lucidité de féministe. Je pense qu'il y a moyen de concilier les deux. Et surtout, j'avais envie d'être honnête. J'avais pas envie de mettre sous le tapis cette partie de moi, parce que je pense qu'on a aussi tendance, on apprend aussi à avoir honte de sa sentimentalité, parce que c'est connoté comme un truc féminin, un peu stupide, un peu niais. Et j'avais pas, c'est comme toujours quand on vous apprend à vous comporter d'une certaine manière et ensuite on vous fait honte de vous comporter de cette manière, donc à un moment il faut juste arrêter d'avoir honte, et donc j'avais envie de mettre ça sur le papier et de l'assumer et de voir comment ça pouvait dialoguer avec une réflexion féministe.
Vous citez aussi dans le livre l'excellent spectacle de Laurent Sciamma, Bonhomme, dans lequel vous êtes d'ailleurs directement cité, le seul en scène d'un homme féministe et qui raconte à quel point cette affirmation semble incompatible aux yeux du monde avec le fait qu'il soit hétérosexuel. Simplement déconcertant ou complètement désespérant, cette perception des choses?
Ouais, c'est vrai que c'est très troublant. Il raconte une soirée où il discute avec un autre invité et le gars au bout d'un moment lui dit, mais en fait tu parles beaucoup de féminisme, t'es gay en fait, et cette association d'idées le déroute complètement. Et je pense que ça nous amène en fait à ce paradoxe où aimer les femmes, c'est aussi les mépriser en quelque sorte, c'est-à-dire comme si un vrai hétérosexuel était censé en même temps mépriser les femmes. Je pense que c'est Donald Trump qui illustre ce paradoxe de la manière la plus flagrante, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se présente comme un amateur de femmes et qui en fait les agresse et les méprise. Ouais.
Réinventer l'amour ou comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, c'est, vous l'aurez compris, indispensable. Mona Chollet, vous restez avec nous dans la suite de Pop Pop Pop. Il sera question de...
Tu sais, Justine, tu pourrais avoir des amis normales.
Je devrais essayer ça.
Quand on aime tant l'aviation, on en fait soi-même. On ne pousse pas à monter dans ces machines absurdes la mère de ses enfants.
Féminisme et pop culture encore et toujours, mais aussi de la nouvelle série de Julie Delpy, du film Le ciel est à vous, et de musique libanaise. Ce sera juste après le tout dernier morceau du groupe Général, Electric.
C'est pas génial, mal, hein,
ouais. Allez, pick up the pieces, ramasse-moi tout ça. General Electric, c'était le morceau Pick Up the Pieces. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et là, ben, je suis embêté, car parce que généralement, je m'arrête pour envoyer un son qui évoque la pop culture à notre invité, genre, je sais pas moi, Retour vers le futur, Star Wars, mais aujourd'hui, le son en question, c'est ben, celui-ci. Enfin, je veux dire, c'est le son que vous entendez en ce moment, là, tout de suite, enfin, c'est ma voix, quoi. Pourquoi ce son qui me fait rougir, Madame Chalet?
Oui, je suis désolée. Mais c'est vrai que votre voix m'évoque la pop culture, j'y peux rien. J'ai passé une bonne partie de mon adolescence devant les programmes en clair de Canal+, et les enfants du rock, etc.
Vous avez une voix de préférence ou je peux vous faire la petite souris?
Que vous voulez, tout
Stuart Little, vous voulez
dire? Oui, je peux vous faire la petite souris, si vous voulez.
Ou je peux vous faire la grosse voix, si vous préférez, Mona Chalet.
Non, c'est génial, oui.
Non, la voix normale.
Quel luxe.
Bon, Mona, parlons de pop culture avec la voix qui vous fait penser à cette pop culture. C'est l'heure de votre pop list. Un livre, un film, une musique, une série. Nous vous avons demandé de nous livrer vos pop prescriptions. Alors commençons par le livre. Votre livre du moment, c'est Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi. Mais dites-moi, Charline, c'est en plein dans notre sujet, ça, ou bien je rêve debout, là?
Vous ne rêvez pas, Antoine. Le féminisme se porte-t-il sur un t-shirt? Kim Kardashian est-elle un objet sexuel ou une femme puissante? De vraies questions et pistes d'exploration de cet ouvrage dans lequel il est question de féminisme, de représentation dans la pop culture et qui interroge aussi leur éventuelle récupération.
Mona Chalet, c'est moi qui vais écouter votre voix maintenant. Auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
Avec plaisir. Ce n'est plus moi qui cherche à me définir, mais la société qui passe son temps à le faire. Quand je dis la société, je parle des médias, des magazines féminins, de la publicité, des productions télé, des industries du spectacle et de toute cette culture qu'on amasse au quotidien. Ces images nous agressent et prétendent nous comprendre tout en perpétuant des stéréotypes qui nous font tout sauf du bien. Il faudrait être sexy mais pas trop, ne pas porter le voile ni de décolleté, avoir des formes là où il faut tout en faisant du 36. Les cheveux bouclés sont beaux sauf quand ils sont crépus. Tu peux donner ton avis mais sans être trop politique. Sois féministe mais tais-toi, un peu mais pas trop.
Extrait donc de Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi, le choix de Mona Chalet. Vous avez la réponse à la question posée d'ailleurs, Kim Kardashian est-elle un objet sexuel ou une femme puissante?
Les deux probablement. Ouais.
Les deux Si c'est une femme puissante, elle sera donc bientôt l'invitée de Léa Salamé. Pourquoi ce livre-là? Racontez-moi. Qu'est-ce qu'il vous raconte?
J'aime beaucoup, c'est une sorte de voyage dans la décennie 2010, en fait, qui est la décennie où on a commencé à avoir des revendications de féminisme dans la culture populaire, chez des stars, à commencer par Beyoncé. Et j'aime bien la manière qu'a Jennifer Padjemi elle parle de l'effet que ça a eu sur elle, parce que c'est la décennie qui correspond à son entrée dans l'âge adulte, en fait. Elle a une trentaine d'années aujourd'hui. Et de l'effet que ça a eu sur elle, la façon dont ça l'a influencée en tant que jeune femme et en tant que jeune femme noire en particulier. Et en fait, elle passe en revue plein de choses que j'ai moi-même suivies, plein d'épisodes, de productions, de personnalités. C'est un livre très foisonnant, très personnel en même temps, et en même temps très très fouillé aussi, où j'ai appris beaucoup de choses alors que je croyais avoir suivi un peu les mêmes questions qu'elle.
Voilà pour le livre, passons au film. Le ciel est à vous. Alors c'est pas le nouveau slogan d'Air France, hein, mais le film de Jean Grémillon, c'est un classique de chez des classiques. Charline est sortie en 1944 avec Madeleine Renaud et Charles Vanel. C'est un choix inactuel, dirons-nous, mais ça n'est pas fait pour me déplaire.
Pierre et Thérèse Gauthier sont expropriés de leur garage à Villeneuve au profit d'un terrain d'aviation civile. Pierre, rappelé par sa passion pour les avions, délaisse peu à peu travail et famille, mais Thérèse se laisse tour à tour gagner par l'appel des airs. Ils achètent un avion et vous savez quoi? C'est Thérèse qui pilote.
Tous les jours à 5h, je baptise comme le curé. Seulement moi, je conduis au ciel, mais j'amène ma clientèle, ce qui est un avantage. Où est-ce qu'elle se cache, ma femme, pour me prendre en flagrant délit?
Oh, elle se cache pas.
Ben oui, Thérèse.
La place des femmes est au foyer.
Quand on aime tant l'aviation, on en fait soi-même. On ne pousse pas à monter dans ces machines absurdes de la mère de ses enfants.
Oh, c'est abominable ce que vous dites.
Le ciel est à vous de Jean Grémillon, une version restaurée qui vient de ressortir en salle. Mona Chalet, je vous laisse la première radio de France pour donner envie aux auditeurs de se rendre dans les salles obscures pour voir ou revoir ce film.
C'est un film très étonnant, surtout pour un film qui date de 1944. C'est vraiment un personnage féminin qui échappe à tous les stéréotypes, non seulement de l'époque, mais encore largement d'aujourd'hui, je pense. Et j'aime beaucoup parce que vous savez, il y a souvent au cinéma ce personnage de l'épouse rabat-joie, en fait, où le mari a une passion ou un idéal et sa femme est celle qui l'empêche, qui le rappelle à ses responsabilités familiales, qui râle, qui fait des scènes, etc. Et là, le personnage de Thérèse, interprétée par Madeleine Renaud, commence par avoir cette attitude. Et puis, il y a ce moment où, en fait, elle est gagnée par la même passion que son mari. Et là, c'est très beau, en fait, de voir un couple qui, en plus d'avoir un travail en commun, des enfants en commun, se dédie ensemble à une passion qui est complètement en plus, quoi. Et où, en plus, quand il se rend compte que sa femme est plus douée que lui pour piloter, la soutient et continue à lui donne les moyens de réaliser son rêve. C'est une configuration vraiment très rare encore aujourd'hui.
Le ciel est à vous de Jean Grémillon, à nouveau dans les salles. Mona, votre série du moment, c'est On the Verge. C'est une création originale de Canal+, signée Julie Delpy. Alors Charline, je sais que les Québécois ont traduit ça par Sur la Verge, mais c'est un contresens, non, si je ne m'abuse.
Je ne relèverai pas. Los Angeles avant le Covid, Justine est une chef française dans un resto à la mode et elle tente de jongler entre vie familiale et vie professionnelle. Heureusement, elle peut compter sur ses amis et ce, malgré la description qu'en fait son mari.
Écoute, Justine, si tu veux faire comme tous ces abrutis américains, avoir un therapist, eh ben, vas-y. Et qui c'est qui te conseille tous ces trucs-là? C'est elle, c'est ça? Tu peux pas nier que sa vie, c'est une catastrophe. Oh, tu pourrais prendre de la distance avec Anne, qui est constamment droguée. Puis aussi avec Yasmine, qui est quand même très, très, très compliquée. Tu sais, Justine, tu pourrais avoir des amis normales. Je devrais essayer ça, t'as le droit.
Vous avez des amis normales, Mona Chavez?
Ça n'existe pas, les amis normales.
Alors pourquoi cette série de Julie Delpy?
Ça me fait énormément rire. Je trouve que ces portraits de personnages féminins, elles sont vraiment pas montrées sous un jour glorieux. Et en même temps, elles sont traitées avec beaucoup de tendresse. Les hommes, on n'en parle même pas parce que, enfin, les relations hommes-femmes, pour le coup, sont traitées de manière assez sanglante, on va dire. Mais voilà, je trouve que ça a un charme énorme. Ouais.
Bien, terminons cette pop-list, Mona Chollet, avec la chanson. Alors, ce n'est pas une chanson du moment, mais c'est une chanson que vous écoutez en ce moment. Et c'est Abeitak Belsaif, de la chanteuse libanaise Férouz, célèbre comme Buster Keaton, pour sourire, disons, rarement. Dites-nous tout, Mona Chollet, pourquoi ?
J'ai vu l'exposition Diva à l'Institut du Monde Arabe qui vient de se terminer là, et ça m'a énormément touchée parce que bon, il se trouve que j'ai une mère égyptienne qui elle-même écoute beaucoup cette musique, qui écoute énormément, qui adore toutes ces chanteuses, Fairoz, Am Kalsoum, Asmahan et d'autres. Et donc j'ai grandi, j'ai moi-même beaucoup baigné dans cette musique, et l'expo était très belle et très, on avait vraiment l'impression d'être immergé dans la voix et l'image de toutes ces divas. Tout en se promenant avec au milieu de gens dont on pouvait imaginer qu'ils avaient autant de raisons aussi très sentimentales d'être là. Et c'était vraiment pour moi un moment hyper émouvant.
Une chanson de Férouz que vous écoutez en ce moment et vous nous avez donné envie de l'écouter tout de suite, et je vous propose de le faire, pas plus tard que maintenant.
حبيتك بالصيف.
C'est grâce à Mona Chollet que nous écoutons aujourd'hui Férouz. Quand vous réécoutez cette chanson, quelle impression ça vous fait ? Quelles émotions ça fait ressurgir ?
Ah, j'adore ce lyrisme et enfin, j'adore Férouz. Je crois que c'est ma chanteuse préférée parmi toutes ces chanteuses de cette époque. Et il y a une nostalgie terrible, il y a un lyrisme complètement assumé. Enfin, c'est. Il y avait un film d'ailleurs dans l'exposition avec des gens qui. Une lecture de lettres que les gens avaient écrites à Férouz et c'était magnifique.
Merci Mona Chollet. Réinventer l'amour ou comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, c'est indispensable, vous l'aurez compris, et c'est édité chez Zone. Merci de nous avoir rendu visite.
Merci beaucoup à vous.
Et merci Charline. Merci. Et à demain, et merci à toute l'équipe de Pop Pop et à Vincent Desizières qui était à la technique aujourd'hui. Demain, pas de Pop, mais un nouveau numéro de Pop Podcast. Et avec nous, la comédienne et stand-upeuse Amel Chabi pour son podcast Dinguerie Room. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop.